Bienvenue dans le podcast Marketing Mania, l'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique, découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Salut les marketeurs, je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans cet épisode du podcast Marketing Mania, je suis rejoint par Sylvain Lambert de Web Marketing & Com. Dans cet épisode, vous allez voir comment Sylvain dirige un des plus gros blogs de web marketing français avec entre 2 et 4 articles publiés par jour sans aucun employé. On discutera aussi de comment Sylvain a percé dans le milieu du web marketing en promouvant son propre CV sur AdWords. Et pour terminer, j'ai également creusé avec Sylvain son idée de faire une agence de web marketing qui soit plus collaborative. Alors sans plus de transition, je vous présente Sylvain Lambert. Sylvain, bienvenue sur le podcast Marketing Mania.
Merci.
Donc toi, tu es le fondateur et tu es en ce moment le PDG, tu dirais, de Web Marketing & Com.
Oh, PDG, c'est un grand mot quand même.
J'étais directement sur les grands mots. Bon, ouais. Tu es le fondateur et le gérant, on va dire, de Web Marketing & Com, qui est un des plus gros blogs de web marketing en France, avec environ, tu dirais, 250 000 visiteurs par mois. C'est les chiffres que j'ai trouvés.
Ouais, on fait 250 000 visiteurs, entre 250 et 300 000 visiteurs par mois depuis le début de l'année. Sachant que l'année dernière, on faisait un peu moins de la moitié. Donc, on a vraiment une grosse progression depuis le début de l'année.
Et tu sais où ça te classe dans le palmarès des sites de web marketing français ?
Alors, je suis un petit peu les classements, notamment celui de Teads. Donc, on est entre la troisième et la première place du classement marketing. Ça varie en fonction des mois et des années. Pendant, on va dire, presque un an, l'année dernière, on était le premier. Là, cette année, il y en a d'autres qui nous ont un peu doublé, mais on reste dans le haut du classement quand même.
Donc, un gros public, tu es aussi à la tête de l'agence de Web Marketing & Com.
Exactement. On a aussi une activité de consulting qu'on a lancée il y a 3 ans, donc avec mon associé Ambre, où on va accompagner les entreprises en matière de communication digitale, donc que ce soit du référencement, du community management ou tout autre type de campagne en ligne, en fait, tout simplement.
Du coup, toi, en tant que Sylvain, comment est-ce que tu définis ton travail et comment est-ce que tu définirais ta spécialité personnelle ?
Alors, donc, au niveau de la spécialité, je suis à l'aise avec tous les leviers de communication digitale, que ce soit le référencement, le community management, pardon, ou tout ce qui est gestion de pub, que ce soit AdWords, Facebook, etc. Mais on va dire que mon domaine de prédilection, c'est quand même tout ce qui est acquisition, tourner ROI.
Donc, tu as fait pas mal de trucs type AdWords, etc.
Exactement. J'ai fait 2 ans en agence de référencement naturel. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé au tout début. Ensuite, je suis passé chez l'annonceur où, du coup, pendant 4 ans, j'ai géré toute la communication digitale. Donc là, du coup, c'était varié. J'avais tous les leviers à gérer. Et puis, suite à cette expérience, j'ai travaillé chez Overblog, donc en tant que responsable search marketing, et puis chez eBuzzing en tant que responsable acquisition Facebook. Donc, ça m'a permis de voir un peu tout, en fait, ces 10 dernières années.
D'où le positionnement de Web Marketing & Com sur tout ce qui est communication. Donc, vu que toi, tu as derrière un tour d'horizon assez grand de tout ce qui est possible.
Exactement. Bon, en fait, à la base, au tout début, c'était un blog personnel, donc je parlais de ce qui occupait mon quotidien, donc en l'occurrence le référencement naturel à l'époque. Et puis, au fur et à mesure de mes expériences, ça s'est élargi à tous les leviers marketing, en fait. Puis après, il y a eu les expériences des co-rédacteurs qui nous ont rejoints. Donc là, maintenant, on est une centaine. Donc ça permet d'avoir, on va dire, des thématiques assez larges.
Du coup, ça se traduit comment pour toi au quotidien ? Quel est le quotidien de quelqu'un qui gère un des plus gros blogs de web marketing en France ? Je suppose que tu as beaucoup de choses qui doivent tourner en parallèle, tu dois avoir beaucoup de gens à gérer, tu m'as dit plus d'une centaine de collaborateurs. À quoi ressemble ta journée typique ?
Alors, donc elle est rythmée en gros sur les publications des articles et sur les soumissions des articles que font les co-rédacteurs. Donc en gros, nos articles ils sont toujours publiés plus ou moins aux mêmes heures. On a toujours un le premier de la journée vers 9h30. après, c'est selon le nombre d'articles de la journée. Il y en a, s'il y en a deux, on en met un à 9h30, un à 14h. S'il y en a plus, on en cale à 11h et à 16h. Donc, on en publie entre 1 et 4 articles par jour selon un petit peu l'activité. Donc, il y a tout ce qui est promotion des éditos. Donc, à chaque fois que l'édito est mis en ligne, donc il y a tout un système de promotion qui est mis en place derrière pour faire la promotion de l'article, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, la newsletter et les autres éléments qu'on peut mettre en avant.
Qu'est-ce que tu appelles l'édito ?
L'article, en fait, tout simplement. Pardon.
Tout article est un édito, donc.
Ouais, voilà.
D'accord.
Donc, il est publié. Alors, enfin, la première étape, en fait, l'article est soumis par le rédacteur. Donc, ensuite, en fonction du planning éditorial qu'on a, on va le caser entre 7 et 10 jours plus tard. Donc, en gros, on a toujours une dizaine de jours d'édito de programmé. En même temps qu'on programme l'article, on va faire une petite accroche pour Facebook et on va la programmer en même temps. Et après, le jour de la publication, on va relayer sur tout l'ensemble des réseaux sociaux en reprenant les éléments qui ont déjà été créés au moment de la programmation de l'article, en fait.
Et tout ça, c'est toi qui en occupe ? C'est toi qui fais la relecture ? C'est toi qui fais la programmation ? C'est toi qui fais l'accroche Facebook ?
Alors, exactement. Je m'occupe de plus ou moins tout. Donc il y a une fois que les articles sont soumis, relecture, correction, programmation, rédaction des accroches sur les réseaux sociaux. Et puis après, le jour J, mise en avant sur les différents réseaux. Donc, on va par exemple, pour chaque article, on va le relayer plusieurs fois sur Twitter, on va le relayer sur Facebook, sur Google+, sur Pinterest, sur une sélection d'une trentaine de groupes LinkedIn. Ensuite, ça va être relayé de façon automatique sur la newsletter, plus sur certains sites. Par exemple, quand on parle de référencement, on va soumettre les articles sur Secret de moteur ou des sites comme ça pour avoir une audience supplémentaire.
Alors, je te pose une question, tu me diras ce que tu en penses. Pourquoi est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose que tu as essayé de sous-traiter à quelqu'un ? Il me semble que tu dois avoir une procédure derrière qui devrait te permettre de…
Oui, c'est en cours de réflexion, justement. Ouais. Donc là, toute la procédure, elle a été documentée ces dernières semaines. Justement, c'est un sujet en cours. C'est marrant que tu poses cette question-là. Et du coup, donc là, toute la procédure est bien documentée. On a un gros doc qui explique un peu toutes nos méthodes, etc. Et donc, on va faire quelques tests pour sous-traiter une partie pour que je puisse un petit peu développer autre chose et puis rédiger un peu plus moi-même parce que du coup, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de rédacteurs, plus j'ai de travail de relecture, etc. Et du coup, moins j'ai de temps pour moi-même rédiger.
Ouais. Et donc, avec tout ton temps de libre, tu vas rédiger plus d'articles, tu vas monter des partenariats, tu vas recruter du monde ?
Alors, rédiger plus, oui. Après, ça va être surtout pour développer tous les services et tout ce qu'on peut proposer sur le site. Parce qu'effectivement, au niveau de l'éditorial, c'est une chose. Après, on a toute une panoplie de services qu'on propose et qu'on va proposer. Donc, déjà, en parallèle, il y a tout ce qui est accompagner nos clients dans leur communication via l'agence. On a les formations aussi, qui reprennent un peu les thématiques qu'on aborde sur le blog et avec nos clients, avec l'agence. Et puis, en parallèle, on a des services qui sont en développement, comme un job board, donc avec tout un système de publication d'annonces d'emploi, de création de CV, etc. Donc, il va être lancé dans, entre un mois et 3 mois, on va dire. En septembre, normalement, tout devrait être prêt. Donc, ça, c'est un des dossiers en cours. Et puis, on a les e-books aussi. Enfin, bref, l'idée, c'est de développer petit à petit des services et des produits autour de la communauté pour la faire vivre et qu'il n'y ait pas que du contenu, mais aussi des services à côté.
Je voudrais revenir là-dessus un peu plus tard dans l'interview. Pour l'instant, je voudrais revenir un petit peu sur comment est-ce que tu en es venu là où tu en es aujourd'hui, avoir ce gros bloc de marketing. J'ai retrouvé une vieille interview où tu racontes que tu as commencé en marketant ton CV sur AdWords. Est-ce que tu te souviens de cette histoire ?
Ouais, exactement. Donc, suite à la formation que j'ai faite de web marketing, donc on nous a appris à faire des sites, du référencement, etc., mais de façon basique, on va dire. Et donc, à la fin de ma formation, pour trouver un emploi, j'ai fait un CV en ligne. Forcément, le référencement naturel, tout ça, ça prend du temps. Et puis, à l'époque, je n'avais pas non plus les connaissances très, très évoluées en référencement naturel. Donc, j'avais fait une petite campagne AdWords sur certains mots-clés. Et en fait, une agence de référencement a trouvé mon profil grâce à la campagne. Et du coup, j'ai trouvé assez rapidement. Ça m'a pris plus ou moins 2 semaines à trouver mon premier poste.
Tu te souviens combien tu as dépensé en AdWords pour recevoir ce poste ?
Non, mais je ne pense pas que j'avais mis grand-chose. Hein. Je pense que, je ne sais pas, j'avais dû mettre un petit budget d'une 50aine d'euros, pas plus, hein, ouais, c'est sûr.
C'est plutôt un bon coup.
Ouais, du coup, franchement, j'ai vraiment pas du tout galéré à trouver un emploi et ça m'a permis de travailler quasiment à la sortie du diplôme, quoi.
Alors, pour te mettre un peu la honte, il me semble que j'ai réussi à creuser et à retrouver ce site. Ça serait www.web-marketeur.net, c'est ça ?
Ouais, il existe toujours, c'est ça. Il a plus de 10 ans, mais il existe toujours.
Voilà, il est toujours en ligne. Vous pouvez aller voir le site originel, là où les choses ont commencé. J'ai trouvé ça une histoire intéressante, parce que ça montre la graine entrepreneuriale, quoi. T'as pris direct l'initiative et t'as été faire le truc. C'est vrai qu'il ne devait pas y avoir 1000 gars qui étaient concurrents sur AdWords avec toi là-dessus.
Donc, s'il y a un CV, mais il y a un back-office et tout que j'avais fait moi-même. Attention, on ne voit pas, mais il y a un back-office. En fait, j'avais fait ça aussi pour m'entraîner par rapport aux cours qu'on avait eus, les cours de PHP, les cours de Dreamweaver et tout ça. C'était un peu un exercice pour moi aussi de faire le site.
Donc, comment est-ce que tu en es arrivé de ton job dans cette agence jusqu'à commencer webmarketing.com ?
Alors, donc, je suis resté 2 ans dans cette agence de référencement et pendant, on va dire, ça devait être la dernière année. Donc, comme j'ai commencé en 2006, donc ça devait être en 2005, que j'ai commencé le blog en 2006, hein, pas l'agence. Donc, on m'a demandé de faire une étude sur les blogs. Donc, à l'époque, on commençait à parler pas mal de blogging. Il commençait à avoir quelques blogueurs influents qui commençaient à faire parler d'eux, etc. Et donc, comme en matière de référencement, tout ce qui était création de liens prenait de l'importance aussi, on m'avait demandé d'étudier les blogs influents dans différentes thématiques pour éventuellement faire des partenariats avec nos clients, voir ce qui marchait, pourquoi les blogs étaient bien référencés. Donc j'ai fait une étude dessus. Et après, pour mettre en pratique, j'en ai créé un pour tester. Donc voilà. Et puis en fait, je me suis pris au jeu. J'ai commencé à rédiger régulièrement. Et puis, après, à faire des partenariats pour que le référencement commence à être un petit peu boosté. Et puis voilà, donc ça a commencé tout simplement en faisant un test. À la base, c'était un site plutôt perso. Donc, ce n'était pas un blog, ça ne se destinait pas à être un blog collaboratif comme c'est aujourd'hui. Donc, c'était vraiment juste un blog personnel avec quelques news essentiellement sur le référencement parce que c'était mon métier à l'époque. Et puis, donc ça, c'était en 2006. Et on va dire quelques mois après, il y a une autre blogueuse qui m'a contacté pour faire de l'échange de contenu, en fait. Donc, en gros, je rédigeais des articles sur son blog. Elle rédigeait des articles sur le mien. On partageait un petit peu la visibilité, du coup. Et puis, ça m'a donné l'idée comme ça de proposer à d'autres personnes de venir rédiger.
C'est vraiment ça qui t'a fait exploser ? C'est le fait d'avoir des rédacteurs extérieurs ?
Ça s'est fait progressivement. Hein. Tu sais, c'est pas venu. On n'a jamais fait le buzz d'un seul coup et partir de rien et arriver direct à 50 000 visites par mois. Non, ça s'est fait vraiment progressivement. Et donc après, du coup, comme j'ai senti le potentiel de la co-rédaction, au moment de la refonte du site, donc je ne sais pas, 2 ans après le lancement du blog initial, donc je l'ai refondu et je suis passé sur WordPress parce qu'au début, j'étais sur .clear et ce n'était pas super pratique et WordPress permettait quand même d'avoir des choses un peu plus élaborées. Et donc, j'ai, par rapport au design, j'ai commencé un petit peu à mettre plus en avant les rédacteurs, etc. pour que ça donne un peu plus envie de rédiger chez nous. Et puis, j'ai passé des annonces sur le blog, tout simplement, en invitant les lecteurs à nous rejoindre. Puis, petit à petit, ça s'est développé. Il y a eu de plus en plus de rédacteurs. Et là, en 2011, on a fait la dernière refonte, où là, on a encore mis de plus en avant les rédacteurs. Et en définitive, c'est que depuis 2011 que le gros des articles est rédigé par d'autres rédacteurs, en fait. Jusqu'à là, c'était essentiellement mes articles qui étaient publiés chaque jour et de temps en temps ceux des rédacteurs. Maintenant, c'est plutôt l'inverse.
Pour préciser, ces rédacteurs, ils ne sont pas rémunérés. C'est des gens qui écrivent pour être exposés sur ton site.
Non, C'est un échange de bons procédés, en fait. Donc, on leur donne de la visibilité. Derrière, après, il y a quand même toute une communauté. C'est-à-dire qu'on a un groupe Facebook, on échange entre rédacteurs. Quand il y a des services, des bons plans qu'on peut se rendre, on le fait. Voilà. Après, il n'y a pas de rémunération des rédacteurs. Par contre, voilà, ça leur permet d'avoir de la visibilité. Généralement, pour leur offre, on a pas mal d'indépendants, en définitive, dans les rédacteurs. Et le fait qu'on fasse quand même pas mal de trafic, ça leur assure d'avoir une visibilité sur leur article et indirectement sur ce qu'ils font derrière.
Moi, je peux confirmer, hein, j'ai écrit un article déjà pour toi, là, je suis en train d'en proposer un autre, comme tu le sais. Et c'est vrai que j'ai eu des très bons résultats sur l'article que j'avais écrit pour toi. Ce qui m'incite du coup à te soumettre d'autres articles. Donc ça montre que tu as vraiment un public derrière qui est engagé, etc. Et c'est vrai que tu bénéficies au final de ta position pour pouvoir derrière recruter des rédacteurs et pour pouvoir leur apporter de la valeur.
Exactement. Maintenant, on nous contacte en fait de façon spontanée. On n'a pas du tout à rechercher des rédacteurs. On a un petit formulaire sur le site qui n'est même pas spécialement mis en avant. Les personnes nous contactent comme ça. J'en ai plusieurs par semaine. Et puis après, tous ne rédigent pas parce que on va dire que ça prend du temps forcément, donc les gens n'ont pas forcément le temps. Des fois, ils font une demande sans forcément derrière avoir le temps de vraiment s'investir. Mais après, sur le lot, comme on est nombreux, ça c'est pas embêtant parce que même s'ils rédigent pas souvent, comme on est nombreux, ça permet d'avoir une continuité éditoriale tout au long de l'année en fait.
Et parmi les articles que tu reçois, ils sont tous de bonne qualité ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui te contactent avec des articles extrêmement simplistes et quel pourcentage d'articles tu dirais sont de bonne qualité et est-ce que tu perds beaucoup de temps à relire des articles qui sont impubliables ?
En fait, d'une façon générale, ça va à peu près au niveau de la qualité. On va dire que 80% des articles sont intéressants et où à chaque fois, il y a de la relecture, des corrections d'orthographe. Bon, ça, c'est normal. Après, il y en a toujours, on va dire, 10% où c'est un peu moyen, on va dire. Donc, dans ces cas-là, soit je réécris pas mal l'article, soit on ne le publie pas si c'est vraiment très, très mauvais. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt, il y a plutôt une bonne surprise à ce niveau-là. Après, dans tous les cas, les rédacteurs dont le premier article n'est pas terrible, on va dire, généralement, il n'y en a pas deux. Quoi.
Ouais. Si tu partais de zéro aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça serait possible de refaire la même chose ou est-ce que tu prendrais un modèle différent ?
Alors après, c'est toujours possible de créer de nouveaux blogs, il n'y a pas de souci. C'est juste que après, il faut avoir la bonne idée au bon moment et puis être surtout motivé pour s'engager sur le long terme parce que si vraiment tu veux percer, c'est vraiment ça prend du temps. Surtout maintenant qu'il y a déjà pas mal de blogs qui sont bien installés, ça prend encore plus de temps que ça prenait à l'époque pour vraiment percer. Donc, en définitive, c'est le travail qui paye. Hein. Faut être motivé. Et après, si à partir du moment où on est motivé et régulier, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Mais tu dirais que le même créneau fonctionnerait. Je voudrais te pousser là-dessus parce que j'ai quand même l'impression que tu es vraiment arrivé au bon moment. Ce qui n'enlève pas qu'effectivement que tu as beaucoup bossé dessus, etc., hein. Mais je veux dire que tu as aussi bénéficié du fait d'être là au bon moment, avec la bonne idée, etc. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a d'autres blogs qui sont possibles sur d'autres créneaux. Est-ce que tu penses que le créneau du web marketing pur en ce moment est trop concurrentiel ? Moi, c'est une idée que je me suis faite en regardant un peu, en particulier, tu vois, tout ce qui est référencement. C'est extrêmement concurrentiel. Est-ce que toi, tu penses que le marché commence à être bougé sur le web marketing pur ou est-ce que tu dirais que c'est encore open ?
Je dirais que c'est... Je dirais que c'est une question de personnalité. Si tu arrives avec un blog et que tu écris de façon personnalisée et que ça ne soit pas juste des copier-coller de ce qu'on a vu ailleurs, tu as tes chances. Il faut venir avec sa personnalité, avec une façon d'écrire qui change des autres blogs. C'est pas que, en fait, quand tu as un sujet, c'est pas que le sujet en lui-même qui compte, c'est la façon dont tu l'appréhendes, ce que tu apportes, ton expérience et puis un peu la façon dont tu écris.
Je vais prendre mon propre exemple parce que moi, là, j'ai commencé, disons, Marketing Mania. Ça a commencé, on va dire, il y a 6 mois. Ce qui veut dire que j'arrive dans un marché qui est effectivement déjà bien développé. Donc, du coup, l'approche que j'ai prise, ça va être d'être extrêmement niché, tu vois. Donc, d'être niché sur les conversions, sur le remarketing, sur quelque chose de très précis qui est effectivement ce que je sais faire et ce sur quoi je peux écrire avec pas mal d'autorité. Par ailleurs, le podcast, c'est aussi une façon pour moi
de proposer quelque chose d'un peu différent, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup fait en France, et ça permet d'apporter un angle un peu nouveau. La raison pour laquelle je te pose cette question, c'est effectivement parce que je me suis moi-même demandé si j'arrivais trop tard. Il semble que tu dises que non, il y a toujours de la place pour faire quelque chose.
Non, bah après, voilà, ça fait là en 6 mois, tu n'as pas encore assez de recul. Même si tu commences un petit peu à voir si ça te plaît, etc. Mais après, 6 mois, c'est encore jeune et tu as encore du temps pour te faire connaître. L'important, c'est d'être régulier, comme je te disais, et puis de durer. Parce que le plus facile, c'est les premiers mois, parce que tu as une certaine motivation, une excitation à avoir lancé ton site, etc. Après, quand tu commences à. Après la première année, tu commences à avoir. Enfin, être un peu moins motivé par avoir un peu moins d'attrait pour la nouveauté. Et du coup, là, c'est là où le challenge commence, en fait. Mais à partir du moment où tu continues à être motivé, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Ouais, après, pour préciser, voilà, mon site fonctionne bien, mais aussi principalement en utilisant mes contacts existants, quoi. Je suis arrivé pas là-dessus avec zéro contact, ce n'est pas mon premier site. Et moi, à la limite, mon but, ce n'est pas d'avoir beaucoup de trafic sur mon blog. Tu vois, j'utilise mes contacts existants pour vendre mes services. Et c'est vrai que d'une certaine façon, le fait qu'il y ait des blogs comme le tien qui sont des très gros blogs et qui ont beaucoup de trafic, en fait, ça facilite un peu la tâche pour des gens comme moi qui ont une approche extrêmement ciblée. Parce que simplement, je peux puiser dans ton puits de trafic. Quoi. Les gens sont rassemblés à un endroit, ils ont un intérêt qui est démontré. Moi, je peux venir et dire voilà ce que je fais. Si vous êtes intéressé, allez, venez sur mon site. Et du coup, je récupère une toute petite fraction de ton trafic, mais je récupère la fraction qui est intéressée par ce que je propose.
Ouais, bah, c'est aussi. C'est aussi tout l'intérêt de rédiger sur d'autres blogs et de faire de la co-rédaction, etc. C'est intéressant pour tout le monde. Moi, j'en ai fait pas mal aussi de co-rédaction au début pour faire connaître le site sur d'autres blogs qui étaient plus installés que le nôtre. Et ça permet effectivement de bénéficier d'une audience qui existe déjà et puis d'avoir en plus une audience ciblée dans le sens où tu vas forcément intervenir sur des blogs qui sont dans ta thématique. Donc, tu as déjà une audience qui est ciblée et qui, après, va pouvoir te suivre, va pouvoir s'abonner à ta newsletter, te suivre sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a plein d'avantages à aller rédiger sur d'autres sites, en fait.
Donc, du coup, à partir du moment où tu as eu un gros blog, comment est-ce que tu en es arrivé du blog vers l'agence ?
Alors, en fait, j'ai été auto-entrepreneur, je crois que c'était je m'en rappelle plus comment j'ai... En 2009, j'ai commencé à travailler un petit peu en freelance, un peu en parallèle de mon travail. Donc, c'était vraiment à petite échelle. Et donc, c'était plus pour arrondir mes fins de mois à l'époque. Et en fait, en 2012, les choses se sont accélérées. Je me suis associé donc à une collègue pour lancer officiellement l'offre d'agence de communication qui existe aujourd'hui, donc Agence Ncom. Et du coup, on a monté un site dédié pour proposer une offre complète, etc. Voilà, c'est à partir de 2000, ça a commencé en 2009, mais c'est en 2012 qu'il y a vraiment eu un vrai lancement en définitive.
Donc, au niveau des revenus, je vois que tu as 3 sources de revenus différentes qui sont numéro 1, la publicité, numéro 2, tes formations et numéro 3, l'agence. Ça sera à peu près correct. Et comment est-ce que ça se répartit, grosso modo? Est-ce que le blog fait beaucoup plus d'argent que l'agence ou est-ce que l'agence rémunère le tout?
Alors, en fait, ça marche comme deux activités différentes et pas forcément connecté. À terme, dans tous les cas, ce sera deux entreprises. Donc, c'est-à-dire que effectivement, sur le blog, je suis seul, alors que sur l'agence, je vais avoir une associée. Au niveau des revenus, on va dire que c'est 35. Enfin, si on prend en global, il y a à peu près 35% de revenus publicitaires et le reste en agence et en formation. Mais après, les deux activités sont indépendantes l'une de l'autre. Et voilà, l'agence ne sert pas forcément à financer le blog. Le blog, il est indépendant financièrement. Les deux activités sont indépendantes. Et puis voilà.
C'est drôle que tu me dises ça parce que en regardant tes différents sites, j'ai remarqué que le branding est très similaire. Tu as une continuité et qui a du coup été voulue.
Exactement. Bah, en fait, quand on a lancé l'agence, on avait l'avantage d'avoir déjà le blog avec une marque qui était connue. Donc, effectivement, on a le, on a l'identité de marque qui est présente sur tous les sites. Après, là, justement, en ce moment, on est en train de retravailler un petit peu le branding de l'agence pour avoir une image un peu plus spécifique.
Tu peux dire sur quelle image plus spécifique tu t'orientes ?
Alors, en fait, on est en train de revoir un peu notre façon à la fois de travailler, notre façon de présenter l'offre. Et donc, du coup, en fait, si tu veux, là, le blog, il est sur un modèle collaboratif. Et c'est ça qui a fait sa force quand on s'est lancé. Là, l'idée, c'est de proposer, pareil, une espèce d'offre d'agence collaborative où il y aurait un pôle d'experts, non de toutes sortes, qui pourrait proposer des prestations de qualité et sur des domaines qu'on ne maîtrise pas forcément en interne, mais que le réseau va maîtriser. Donc, on va passer sur un mode collaboratif, en fait.
Donc, ça ressemblerait à une marketplace où j'ai une liste de gens que je peux engager ?
Pas forcément. En fait, quand ils vont nous contacter, on va contacter pour eux les meilleurs experts en fonction du besoin. Et on va monter une offre avec ces différents experts en fonction.
Et toi, du coup, tu prends une com sur la transaction ?
Exactement. Bah, en fait, on a le chef, la gestion de projet, on va dire, restera de notre côté. Par contre, le client ce sera transparent, c'est-à-dire qu'il aura tel expert de telle société, tel expert de telle autre, etc.
Et est-ce que tu es prêt à partager avec moi le pourcentage de com que tu prévois sur ces transactions ? C'est-à-dire combien vaut, à ton avis, en pourcentage, le fait que tu fasses la connexion, le fait que tu aies le client et le fait que tu fasses la gestion de projet ? Comment est-ce que tu quantifies tout ça ?
Ça va, c'est pas encore bien. En fait, si tu veux, là, c'est vraiment quelque chose qui est en cours. Donc là, on a plus ou moins le réseau d'experts. On commence à le proposer, même si on n'a pas encore marketé l'offre, on commence à le proposer à certains de nos clients. Après, ça, je pense que ça va dépendre des projets. Et puis, ça va dépendre aussi du temps qu'on va estimer à faire la gestion de projet, du temps estimé ou à la partie qu'on peut maîtriser en interne et de la partie qui va être maîtrisée en externe. Donc, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas une réponse type, c'est-à-dire que ça va dépendre vraiment de la prestation et du projet.
À la louche, c'est quoi ? C'est 40% ou tu ne sais vraiment pas ?
Non, je pense que ce sera, on va dire, entre 10 et 15% en fonction du temps estimé. En fait.
Ce qui est super raisonnable.
Oui, en définitive, c'est un peu comme si on faisait de l'affiliation avec eux, quoi.
Du coup, c'est intéressant que tu repartes là-dessus parce que je voulais vraiment te demander comment est-ce que tu organises ton équipe. Commençons par le blog. Sur le blog, t'es tout en haut et tu as une centaine de rédacteurs. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui travaillent sur le blog ?
Donc, j'ai un webmaster qui m'aide, donc qui m'aide de plus en plus. Donc, c'est encore loin d'être un mi-temps, etc. Mais il y a quand même un webmaster qui m'aide de chaque mois pour développer les différents services. Donc, notamment là, en ce moment, pour le job board qui est en cours de développement. Après, on va dire que au niveau des personnes qui travaillent dessus, c'est essentiellement moi. Et après, c'est plus de la co-création avec les personnes qui rédigent sur le blog.
Et comment est-ce que tu vois le développement de l'équipe pour le futur ? Est-ce que tu te vois un jour engager des employés à plein temps ou est-ce que tu es content d'un système comme ça avec beaucoup de freelance et beaucoup de gens qui écrivent pour le public ?
Sur le blog, tu parles ?
Ouais, sur le blog pour commencer.
Non, sur le blog, je pense que ça restera plus ou moins sur ce type de système. L'idée, ce n'est pas de devenir une structure lourde, c'est de rester sur quelque chose de léger, qui continue à prendre plaisir à bloguer tout simplement. Après, c'est vrai qu'on a des... là, depuis, on va dire, un an, on s'est rapproché de CB News, donc le magazine marketing. Donc, on a un partenariat avec eux. Maintenant, on a une newsletter co-brandée qu'on a lancée en début d'année. Donc voilà, après, il y a pas mal de choses à gérer. Donc peut-être que à moyen terme, on va dire, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un qui m'appuie sur certaines tâches, d'où ce que je te disais tout à l'heure de bien mettre en place les process pour pouvoir externaliser certaines parties. Mais après, voilà, je me vois pas recruter toute une équipe pour le blog. Ça dénaturerait un petit peu l'esprit, je pense.
Et en revanche, du côté agence, tu vois ça comment ?
Alors, l'agence, après, ça, c'est différent. Là, effectivement, on est deux à travailler sur l'agence, plus de plus en plus de freelance qui travaillent pour nous de façon régulière. Donc, après, là, ça va dépendre tout simplement du chiffre d'affaires, pardon. C'est-à-dire que bah, dès qu'on pourra recruter des chefs de projet, des commerciaux, etc., pour développer l'offre, on le fera. Et là, donc là, on est plus dans une logique de structure d'entreprise plus classique, on va dire.
Pour terminer avec toi, je voudrais te poser trois questions rapides et tu répondras si tu as envie rapidement ou tu peux prendre ton temps. Premièrement, quel livre tu recommandes souvent ?
Alors, en matière de marketing, donc, moi, j'ai bien aimé l'art de l'enchantement par Kike Awasaki, donc l'ex-monsieur marketing d'Apple. On apprend plein de choses intéressantes et des techniques qui ont fait le succès des campagnes marketing d'Apple. Et pour en fait le speech, c'est pour enchanter ses clients en fait. Donc il est vraiment bien fait, il est accessible et on apprend pas mal de choses.
Cool. Je donnerai le lien pour tout ce que tu mentionnes dans l'article sur lequel sera cet épisode pour que les gens puissent directement retrouver les liens. Deuxième question, une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit ?
Là, j'en ai pas spécialement, hein, désolé.
Il n'y a pas de problème. Tout le monde en a pas. Hein.
Non, comme ça, spontanément, non.
Mais je suis curieux de savoir si quelque chose va apparaître dans ton esprit.
Ouais.
Moi, je fais partie des gens qui ont des citations sur leur fond d'écran.
Et donc là, t'as quoi en ce moment sur ton fond d'écran ?
Donc en fait, j'en ai plein. C'est pour ça que je te pose la question. Je suis extrêmement friand de ce genre de choses. Dans 5 ans, tu seras la même personne, sauf pour les gens que tu rencontres et les bouquins que tu lis. Donc voilà, c'est une idée de lire beaucoup. Non, c'est des idées intéressantes. J'en ai plusieurs en fait qui tournent, qui me servent. Tu sais, c'est du priming psychologiquement. Ça sert à te dire que chaque jour, à force de voir les choses, ça influence subtilement tes actions. Tu vois, c'est pas une question de me dire oh putain, je vois cette citation, je suis ultra motivé.
Ouais.
C'est plus l'idée de dire chaque jour, je vois un truc qui me rappelle de. Voilà, c'est l'idée de comment est-ce que tu évolues, etc. et vers quelle direction est-ce que tu veux te diriger. D'où ma question. Pour terminer, une troisième petite question. Si tu pouvais donner un conseil aux auditeurs qui veulent percer dans le web marketing, tu leur dirais quoi ?
De toujours se maintenir à jour, en fait. Les techniques, elles évoluent sans cesse. Moi, quand j'ai commencé, on parlait pas du tout de community management, ça n'existait pas. Facebook, je connaissais pas non plus. Ça existait, je sais même pas si ça existait peut-être déjà, mais uniquement dans les universités américaines, donc c'était pas très répandu à titre personnel. Donc c'est vraiment se mettre à jour et de mettre en place une veille bien structurée, efficace, et de s'y tenir vraiment tout au long de sa carrière pour pas louper les dernières évolutions. Ça change vraiment. Moi personnellement, je passe au moins une demi-heure, trois quarts d'heure par jour à faire de la veille en fait.
Des sites en particulier que tu regardes, à part le tien ?
Ouais. Donc, en ce moment, j'aime bien Créapills, donc où il y a pas mal d'idées de communication originale. Sinon, pour la partie community management, il y a le journal du CM, où il y a vraiment des éditos intéressants et bien travaillés. Sinon, il y a Isabelle Mathieu aussi, que je suis depuis longtemps, notamment pour tout ce qui est publié autour de Facebook.
Pour terminer, où est-ce que les éditeurs peuvent en apprendre plus sur toi et sur ton travail ?
Tout simplement sur webmarketing-com.com. Donc là, depuis le site, ils ont les liens vers toutes nos présences en ligne, donc que ce soit la page Facebook, le compte Twitter, sur Google+, pour ceux qui y sont. Et puis voilà. Et puis après, s'ils veulent me contacter à titre personnel, c'est plus sur s'ils vont sur un de mes derniers articles. Et là, en bas, ils ont tous les liens. Donc c'est assez facile de me trouver. Ou sinon, il y a toujours Google.
Sylvain, je te remercie d'avoir été avec moi.
De rien.
Et à la prochaine.
Salut.
Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner au podcast en vous rendant sur l'adresse marketingmania.fr/podcast. Donc, si vous avez 2 minutes devant vous pour me laisser cette évaluation, vous pouvez vous rendre à la même adresse, c'est-à-dire marketingmania.fr/podcast, et il y aura toutes les instructions sur comment laisser une évaluation. Quant à moi, je vous retrouverai dans le prochain épisode avec de nouvelles idées pour booster vos conversions.